Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice, ce soir avec Samuel Buelta-Simon, qui est chef adjoint de l'OFAS, de l'Office anti-stupéfiant. Il y a quelques années, deux chercheurs sur les drogues, Christian Bachmann et Anne Coppel, publiaient un ouvrage intitulé « Le dragon domestique ». 30 ans après, le dragon n'a cessé de prospérer et il s'est de surcroît mondialisé. La drogue représente le premier marché criminel mondial, d'un volume estimé entre 426 et 652 milliards, et qui engendre 3,2 milliards d'euros de revenus sur notre territoire national. Et d'ailleurs, notre pays détient le triste record des consommateurs au niveau européen. Enfin, le trafic de stupéfiants constitue ce qui est appelé une menace mère, c'est-à-dire qu'il empoisonne la vie de nos compatriotes, qu'il empoisonne aussi le corps de nos enfants et pas que de nos enfants. Je vous rappelle que 80% des règlements de compte en France sont liés à la drogue. Bref, le défi est colossal et il doit absolument être relevé. C'est devenu une priorité politique. Et pour cela, il fallait moderniser et adapter nos institutions, ce qu'a fait le gouvernement ces derniers mois en créant une nouvelle institution, l'Office anti-stupéfiant, l'OFAST, dont j'ai le plaisir de recevoir le chef adjoint. Bonsoir Samuel Buelta-Simon.
Bonsoir Antoine Garapon.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes magistrat de formation. Votre dernier poste dans la magistrature était procureur à Bayonne, où vous avez retrouvé et peut-être terminé un travail que vous aviez commencé des années plus tôt de lutte contre le terrorisme basque, notamment en étant magistrat de liaison à Madrid. Et vous avez consacré une partie de votre carrière dans ce combat, on peut le dire, dont vous avez tiré un livre intitulé « La justice française contre ETA » avec Patrice Olivier Morel, et c'est publié aux éditions des Presses universitaires de France. Alors, je voudrais qu'on commence par la menace de Samuel Buelta. Comment vous pourriez caractériser cette menace? Est-ce que le travail de l'OFAST, est-ce que c'est un travail surtout national, surtout international, les deux, qui va essayer de combattre à la fois les narcos et ces routes des drogues qui sont mondialisées, ou est-ce que c'est aussi coordonner la lutte au quotidien dans les quartiers contre les trafiquants de drogue?
Alors, s'agissant de la menace des trafics que représente le trafic de stupéfiants au niveau mondial, puisque c'est de cela dont il s'agit, il faut savoir que cette menace ne cesse de grandir. Et lorsqu'on dit de menace, c'est une menace, vous l'avez rappelé en introduction, qui touche et qui compromet la santé des personnes de tous les pays, y compris la France, bien entendu, et des personnes et principalement, ou en grande partie, des grandes personnes, des jeunes personnes, des jeunes adultes. C'est aussi une menace qui compromet l'économie dans les pays et qui compromet les États, forcément, par les répercussions que cela va avoir sur la probité, sur l'infiltration dans l'économie légale, et qui vient quelque part fausser les fonctionnements sociaux, économiques, sociétaux dans un pays donné.
Ce qui doit compliquer pour vous le travail avec des États, ce qu'on appelle les narco-États, je pense à la Guinée-Bissau il y a quelques années, ou je pense même dans certains pays d'Amérique du Sud. Est-ce que vous avez toujours des partenaires qui partagent la même détermination que vous, que la France ou que les pays occidentaux dans la lutte contre le trafic de drogue?
Alors, chaque pays réagit face à ce type de menace, mais c'est vrai aussi pour le terrorisme et d'autres menaces existantes, de la manière dont il croit la mieux adaptée au bien de son pays. Alors, il est des périodes dans certains pays qui rendent la coopération qu'on va entreprendre beaucoup plus facile, et puis d'autres périodes un petit peu plus difficiles. Toujours est-il que, mais c'est un peu, je dirais, la, une règle en diplomatie française, la France essaie toujours de coopérer, toujours d'ouvrir un dialogue, d'ouvrir une voie de coopération, et d'autant plus lorsqu'il s'agit de lutter contre une menace telle que le trafic de stupéfiants. Donc, même les...
C'est une particularité française, ça, cette ouverture
C'est une tradition française, oui. De toujours garder un dialogue ou un fil de dialogue ouvert pour permettre l'amélioration. En général, on ne tourne pas le dos à des pays dans le monde parce que leur position sur tel ou tel sujet n'est pas conforme à la nôtre ou est vécue comme dangereuse pour notre pays. Donc on essaie toujours de forcer une coopération jusqu'à un certain point. Mais là, je dirais, ce point-là, c'est le point de la rupture des relations diplomatiques. Donc lorsque ce n'est pas le cas, la France essaie toujours de tisser des liens pour faciliter son action et faciliter la protection de notre pays, de la France, contre les menaces de tous ordres et le trafic de stupéfiants en est un. Donc avec des pays, je dirais, un peu plus faibles, parce que c'est de cela dont il s'agit. Lorsque vous parliez de menaces, menaces pour les pays et menaces pour les États, la criminalité organisée qui tire profit des trafics de stupéfiants s'en prend volontiers aux États les plus faibles, dans lesquels les institutions, les traditions État de droit, traditions républicaines, j'oserais dire, mais c'est un modèle très français, sont les plus récentes ou les plus incertaines ou les plus fragiles. C'est vers ces pays que le crime organisé se tourne, va s'attaquer pour en faire parfois des pays plus perméables au trafic de toutes sortes. Donc ces États-là, la France, et je reviens à notre diplomatie, la France les aide pour essayer de se renforcer, de faire en sorte de lutter plus efficacement contre le trafic de stupéfiants.
Il y avait, dans les Wikileaks, qui affectaient donc la diplomatie américaine, il y a eu un câble américain, c'est intéressant, parce que c'était de l'ambassadeur américain au Mozambique, disant on s'inquiète parce que on forme les policiers dans la lutte contre la drogue, mais on se demande dans quelle mesure toute cette formation ne sert pas les trafiquants, tant la frontière est poreuse entre policiers et trafiquants dans ce pays.
Moi, je pense que la formation, notamment très pratique et très professionnelle, n'est jamais quelque chose de vain. La culture n'est pas quelque chose de vain, l'éducation non plus. Et donc la formation, par conséquent, est quelque chose qu'il faut maintenir. Alors certes, on peut, et je pense, en des temps où j'étais à la tête d'un organe de formation français, pour les magistrats, on peut parfois être déçu, parfois se décourager sur les fruits de ces actions de formation et de coopération. Néanmoins, là aussi, c'est une constante française de toujours insister sur ce point-là.
Parce qu'il y a toute une chaîne d'États qui est concernée par le trafic de drogue. Il y a les pays producteurs. Il y a ensuite les pays par lesquels la drogue va transiter de multiples manières, Samuel Huelta.
Absolument, Antoine Garapon. C'est l'attitude de coopération que nous avons avec les pays qui sont impactés d'une manière ou d'une autre par le trafic de stupéfiants. Je dirais, elle varie selon leur position. Effectivement, la France travaille... je dirais en bonne entente, en coopération avec des pays producteurs, enfin qui produisent de la drogue quelle qu'elle soit.
Dans lesquels est produite la drogue.
Dans laquelle est produite la drogue. Enfin, oui. Dans lesquels la criminalité organisée, bien organisée, produit de la drogue, souvent au grand fil de l'État, au grand désespoir de l'État qui tient le pays. Je pense à coopération très fructueuse qu'on peut mener avec la Colombie, avec le Maroc, avec le Brésil, avec le Pérou, mais également d'autres régions du globe. Cette coopération, elle est indispensable. Il est indispensable d'aider ces États à lutter contre ces productions de stupéfiants qui viennent ensuite sur nos territoires en Europe.
Prenons l'exemple de l'Afghanistan. L'Afghanistan, il y a pratiquement pas de contrôle uniforme par l'État de Kaboul sur tout le territoire. On dit que, je parle sous votre contrôle, que la culture du pavot et donc de l'héroïne est une alimentation du mouvement des talibans. Là, c'est très difficile de pouvoir contrôler les lieux de production.
Alors c'est très difficile et je dirais si on s'élève un peu en parlant de toutes les productions qu'on peut trouver de par le monde, on a constaté que les zones de production tendent plutôt à augmenter dans le monde. C'est vrai pour le pavot en Afghanistan, c'est vrai aussi pour la feuille de coca, la coca dans les Andes et en Colombie et au Pérou. C'est vrai aussi pour certaines parties d'Afrique du Nord où le cannabis est cultivé. Néanmoins, je ne doute pas que, et c'est un constat que l'on fait pour certains d'entre eux, que à leur niveau, ces pays-là fournissent un effort pour lutter contre les trafics et pour réduire ces productions. Voilà. Pour cela, ils ont besoin d'une aide extérieure. Alors, suivant les pays, ça peut-être la France, mais d'autres pays sont mieux placés pour intervenir. Je pense notamment à toute la politique américaine de restriction des cultures en Colombie, au Pérou, en Équateur.
Extrêmement contestée d'ailleurs.
Extrêmement contestée, mais extrêmement nécessaire aussi pour les États-Unis, qui étaient impactés et qui sont toujours impactés par des arrivées massives de cocaïne sur leur territoire. Nous, la France, elle est positionnée un peu différemment. On a la chance inouïe et la malchance d'être au cœur de l'Europe, au cœur d'un continent européen qui est une zone de consommation par excellence de tous ces produits-là. Donc, que ce soit l'opium transformé en héroïne, que ce soit le cannabis, quelle qu'en soit sa forme, la cocaïne ou même les drogues de synthèse, elles arrivent, pas toutes en France, heureusement.
Mais elles passent souvent en France.
Ou elles passent en France, ou elles sont destinées aussi au marché français. Donc on a une situation géographique qui fait qu'on est une clé ou un passage obligé des trafics de toutes sortes. Donc notre rôle, et c'est le rôle de l'OFAST, il va être de barrer ou en tout cas entraver la circulation de la drogue, mais au-delà, identifier les groupes criminels organisés qui en tirent profit et arrêter leurs responsables, confisquer leur patrimoine et faire en sorte que l'action ne s'arrête pas au saisie du produit, mais aille un peu plus loin.
Mais ces responsables-là, ils ne sont pas sur le territoire national, Samuel Vuelta. Ils sont en Colombie, ils sont en Afrique du Nord. Ils vont pas risquer de ces petites mains qu'on prend ou qui arrivent sur le territoire national.
Absolument. Enfin, il y a petite main. Il y a des petites mains.
Il y a des mains qui sont plus grosses que d'autres.
Voilà, des mains plus grosses que d'autres. Mais nombre de trafiquants, de responsables, de réseaux criminels. Je préfère les appeler comme ça parce que, en réalité, vous rendez compte que tout cela fonctionne avec les mêmes techniques que l'économie légale. Hein. C'est une économie de marché totalement illégale, nocive pour les États, comme je le rappellerai pas. Mais on se rend compte que ce sont des vrais responsables d'entreprises criminelles. C'est plus des trafiquants. Voilà. Il faut lever un petit peu le débat pour mieux les considérer. Et de ce fait, comme toute activité économique, je dirais légale, eh bien, oui, effectivement, on a des directions de ces groupes-là qui partent de l'étranger.
Est-ce qu'il est exact qu'ils sont de mieux en mieux équipés, ayant plus d'argent, qui disposent notamment d'équipements extrêmement sophistiqués de géolocalisation, ce qui rend, j'imagine, la lutte contre ces groupes plus difficile?
Oui, c'est en tout cas le constat que fait l'OFAST et les autres services français. Des groupes criminels de mieux en mieux organisés, vous l'avez dit, qui parfois dirigent des entreprises criminelles de l'étranger, même s'il s'agit de Français qui peuvent être réfugiés dans tel ou tel pays, et qui utilisent toutes les techniques d'une économie légale, des bureaux d'études qui développent les techniques et les qualités des produits qui sont vendus. Lorsqu'on pense au très récent engouement, enfin récent c'est 3 ans en arrière, pour l'herbe de cannabis par exemple. Alors je fais une petite incise sur cette herbe de cannabis qui peut être vécue, qui a une image de produit plus sain,
festif,
beaucoup plus sain, naturel, identifié que peut-être la résine. En réalité, l'herbe de cannabis a aussi un engouement parce que son taux de principe actif a été multiplié par plus de 3 en très peu de temps grâce à la manipulation génétique des plantes. Aujourd'hui, les gens qui, malheureusement, consomment de l'herbe de cannabis, ben, il faut qu'ils sachent que les herbes qu'ils consomment sont des OGM, la plupart du temps, sont des plantes modifiées dans leur nature pour augmenter leur principe actif, sont élevées dans des serres en, en élevage intensif avec des techniques qui n'auraient rien à envier à l'agriculture industrielle, voilà. Donc,
Il y a des ingénieurs agronomes qui sont penchés sur la question, qui ont travaillé pour augmenter le principe actif de ces herbes.
Je ne sais pas s'ils étaient tous diplômés. En tout cas, ils en avaient le talent ou les connaissances, oui.
Et puis une utilisation massive du darknet, c'est-à-dire des moyens de communication difficiles à intercepter.
Oui, comme autres techniques qui sont utilisées, ce sont toutes les techniques qu'utiliserait une entreprise commerciale, start-up ou autre, qui veut progresser. Donc des moyens de communication efficaces que l'on ne peut pas intercepter, des modes logistiques de transport des produits qui sont à chaque fois plus imaginatifs et plus variés, qui utilisent absolument tous les vecteurs. Enfin, ça, c'était quelque chose d'ancien, mais ça se multiplie encore plus, par air, par terre, par mer. On a les produits stupéfiants qui sont acheminés par divers canaux. Là aussi, un morcellement de l'activité criminelle. Donc ceux qui, aujourd'hui, je parle du segment supérieur, du haut du spectre des trafiquants, ceux qui aujourd'hui dirigent des envois de tel ou tel produit, font appel à des logisticiens qui leur assurent le transport, qui eux-mêmes font appel pour tel ou tel passage délicat à d'autres équipes qui viennent en renfort pour récupérer la marchandise, etc., etc. Donc vous voyez que le trafic de stupéfiants, c'est ni plus ni moins qu'une activité comme une autre, mais totalement illégal.
Totalement illégal. Mais est-ce qu'il est possible de collaborer, Samuel Bueltad, est-ce qu'il est possible de collaborer sans s'en rendre compte? Est-ce qu'il est possible d'être recruté par une entreprise qui veut affréter, transporter, traverser l'Atlantique, et de bonne foi? Je veux dire, c'est une vraie question, c'est-à-dire, est-ce que c'est des entreprises très très pyramidales où tout le monde est compromis dans le trafic, ou est-ce que c'est en fait quelque chose de beaucoup plus horizontal?
Alors, oui, une entreprise peut-être de bonne foi, un transporteur routier ou maritime peut-être de bonne foi, et avoir dans son fret des produits stupéfiants sans le savoir, bien entendu. Mais cela suppose que pour introduire ce produit stupéfiant, que l'on fasse appel à de la compromission, alors d'agents fonctionnaires de l'État, des ports ou des réseaux de transport, ou des simples travailleurs qui opèrent pour pouvoir introduire et ensuite sortir le produit du moyen de transport légal. Donc il y a des entreprises et les compagnies maritimes qui chargent le fret pour traverser le continent, françaises ou pas hein, d'ailleurs, peuvent être victimes de ce type de comportement. Donc non, tout le monde n'est pas contaminé pour autant.
Alors, comme toutes les entreprises, on est frappé par leur faculté d'adaptation extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a, c'est une menace qui se recompose, qui change de route, qui change de technique constamment.
Absolument. C'est la raison aussi pour laquelle je n'entre bien entendu pas dans les détails, les secrets de fabrique de l'OFAST.
Hein.
Mais les groupes criminels organisés sont très alertes et se tiennent très informés des techniques qu'ont les forces de sécurité des États pour les contrer. Et vont prendre des contre-mesures pour justement contourner ou déjouer les opérations des forces de police du monde entier. Ça, c'est évident. Donc, il y a aussi une veille chez les criminels de cet ordre-là qui leur permet à chaque fois de s'adapter et de passer à des méthodes techniques, usage de produits de géolocalisation pour suivre où se trouvent leurs marchandises et autres techniques pour être sûr qu'ils ne vont pas être entravé par une force de sécurité qui va intervenir.
Mais donc, oui, donc pour vous, un très haut niveau de sécurité,
très haut niveau de sécurité absolument.
Pour vos méthodes, votre manière de faire, qui est un avantage compétitif, parce qu'on a envie de vous poser la question, Simon Vuelta, mais qu'est-ce que les États ont en plus? si on a des entreprises qui ont cette capacité, ce souci d'innovation, qui ont tout sauf la règle et l'honnêteté et le respect, bon, ça veut dire que on a affaire à des entités extrêmement dangereuses à tout point de vue. Qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce que les États ont en plus?
Alors, déjà, ils ont la loi pour eux.
Il y a la légitimité, c'est pas rien, oui.
L'actuel policier, l'ancien magistrat qui vous dira le contraire, ils ont la légitimité de l'action publique, et ils ont le devoir de protéger nos concitoyens, de protéger nos institutions, nos entreprises, etc. Donc, c'est une... c'est un motif ou une motivation qui est, à mon avis, nettement supérieure à juste l'appât du gain, la réalisation des profits. Mais ce qu'on a en plus, ou ce qu'on peut avoir en plus, c'est justement éviter de rester sur des schémas acquis. Ça me fait une bonne transition pour vous dire deux mots de l'OFAS peut-être. Oui. Rester sur des schémas acquis et essayer à chaque fois de remettre le métier sur l'ouvrage et voir si on ne peut pas mieux s'adapter aux réalités criminelles. C'est un travail qui remonte, je citerai une seule loi, peut-être, Antoine Garapon, cette émission que vous connaissez bien, c'est les lois Perben qui ont, pour la première fois, judiciairement parlant, fait une place au crime organisé. Voilà, c'était une adaptation. Je crois que la loi s'appelait une loi pour...
Tout à fait. Et ce qui était étonnant dans la loi Perben, c'est qu'elle utilisait des techniques que la police nationale n'utilisait pas, comme la sonorisation, et qu'on devait utiliser pour être à la hauteur de la menace. C'est un véritable débat. C'est un débat pour les juristes, c'est un débat pour la société, d'ailleurs, de savoir jusqu'à quel point on peut ressembler tout en gardant l'identité d'un état de droit.
Absolument. Et les techniques qui sont rentrées peu à peu, qui ont été appliquées au crime organisé, ce sont les techniques qu'avait en partage la lutte contre le terrorisme. Oui. Pour certaines d'entre elles, hein, pas toutes. Il y a un pays que j'affectionne beaucoup, vous en doutez, c'est l'Espagne, puisque c'est le pays où je suis né. L'Espagne a certainement des défauts dans son organisation, comme la France, mais lorsqu'il s'est agi de penser le ministère public en Espagne, ils ont identifié clairement trois menaces principales, les trois menaces fondamentales pour un État. Et pour une société, c'était le terrorisme, et ils ont été frappés rudement.
Au combien ?
La corruption et le trafic de drogue. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont créé trois parquets nationaux spécialisés sur ces trois thématiques, et notamment le trafic de drogue, il y a de nombreuses années en arrière, justement parce qu'ils ont considéré, à l'époque, ils considèrent aujourd'hui, que c'est une menace contre laquelle il faut lutter avant toute chose. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man.
Esprit de justice,
Antoine Garapon.
I'm a Esprit de justice, toujours avec Samuel Simon Vuelta, qui est le chef adjoint de l'OFAS, de l'Office de lutte contre les stupéfiants français, qui a choisi de nous faire entendre une chanson de Freddie Mercury au titre, explicite, Don't Stop Me Now, ne m'arrêtez pas maintenant. Mais c'est, qu'est-ce que ça veut dire pour un magistrat, un policier, une chanson, ne m'arrêtez pas maintenant?
Et justement, merci Antoine Garapon de me poser cette question. C'est une chanson, bon, Freddie Mercury et Queen, le groupe, donc Freddie Mercury qui est décédé, qui est un grand groupe de rock, donc par rapport à la musique. Et puis le message Don't Stop Me Now, c'est justement peut-être pour reprendre l'initiative du service auquel j'appartiens, qui est une initiative nouvelle, qui bouscule ou qui s'adapte à cette criminalité dont on parlait, cette criminalité organisée, en se réformant de l'intérieur, et je dirais, c'est pas le moment de s'arrêter, il faut au contraire continuer dans cette voie-là.
Mais alors, vous disiez que les Espagnols qui ont été frappés les premiers, à la fois par le terrorisme, par la corruption, dont ils parlent plus que nous, on a mis plus de temps en France à en parler, et par bien sûr le trafic de drogue, c'était organisé en disant voilà, on a trois défis, on a trois menaces, on les prend chacune par des organismes spécialisés sur lesquels on va revenir avec vous, Samuel Simon Vuelta. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on, c'est un peu le chemin qu'on suit en France, hein. C'est-à-dire qu'on a eu le PNF, où c'est quand même le PNF, c'est la lutte contre la corruption, l'OFAST pour la lutte contre les stupéfiants, et le parquet national antiterroriste. Donc on voit bien qu'il y a une réorganisation profonde de la politique, notre politique de sécurité autour de ces menaces. Alors juste un mot, parce que vous venez de l'antiterrorisme, est-ce qu'il n'y a pas un lien encore une fois entre les organisations terroristes et le trafic de drogue? J'ai lu par exemple que pour traverser le Sahel, eh ben il faut payer les groupes djihadistes aujourd'hui. Donc si on veut acheminer de la drogue par voie terrestre depuis l'Afrique de l'Est, le Kenya ou le Mozambique pour tout ce qui vient d'Asie, et puis traverser l'Afrique, ben on va payer et on va alimenter les réseaux terroristes.
Alors classiquement, ceux qui s'intéressent au sujet, vous direz que de narcoterrorisme, il n'y en a qu'un seul, c'est il est en Colombie, ou il a été en Colombie pour partie, et que le reste, ce sont plutôt des alliances d'opportunités, ou alors des terrorismes qui prélèvent une dîme, qui prélèvent de l'argent, un droit de passage, je pense au Sahel notamment, sur les trafics qui sont organisés par d'autres. Donc les spécialistes du contre-terrorisme souvent ont du mal à parler de liens véritables, pérennes entre le terrorisme et les trafiquants de stupéfiants. Je suis aussi de leur avis. D'ailleurs, les profils des personnes qui se livrent à, enfin qui incarnent ces menaces sont souvent pas du tout les mêmes, ne cherchent pas les mêmes n'ont pas les mêmes objectifs, hein. Il faut rappeler que pour un trafiquant de drogue, le seul objectif, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est le profit, le bénéfice, et profiter de ses biens. C'est pas du tout en général, l'objectif que vise un terrorisme.
C'est beaucoup plus compliqué que ça.
C'est beaucoup plus compliqué. C'est soit un terrorisme séparatiste ou un terrorisme universel. Enfin bon, avec des enjeux qui sont différents.
Il y a une dernière question avant qu'on arrive à notre pays, ce qui se passe en France. Il y a toujours des organisations criminelles. Est-ce qu'une stratégie ne pourrait pas consister, vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein, Samuel Vuelta, à jouer la concurrence entre elles? C'est-à-dire, on sait que les cartels colombiens sont pas unis. Il y a des groupes criminels qui se livrent une concurrence absolument féroce, d'ailleurs entre parenthèses, dont je pense aux CETAS, qui sont des anciens des forces de lutte contre le trafic de drogue, qui sont retournés en trafiquant, qui sont d'une violence quoi, on a quelques romans, quelques séries ou quelques livres qui nous en parlent. Bon, est-ce que une stratégie pour les pays occidentaux, pour les pays qui souffrent, qui sont les destinataires de cette drogue, ne serait pas de jouer la concurrence?
Alors, Très honnêtement, alors ce sont des réalités qu'on rencontre effectivement sur le continent américain et ailleurs, hein, où des groupes criminels, mais même sur le théâtre français.
Bien sûr, on va y venir, bien sûr, les règlements de compte, c'est ça.
Exactement. Donc ce sont des réalités criminelles. L'État, en tout cas les États, ou en tout cas l'État français, ne joue pas cette carte-là. Ouais. Parce que la première des responsabilités qu'il a, c'est de protéger tous les citoyens français, fussent-ils criminels, contre les attaques des autres. Et la police judiciaire, la gendarmerie, enfin toutes les forces de l'ordre, lorsqu'elles ont connaissance d'un projet d'attentat à la vie contre un criminel, ben c'est pas parce qu'il est criminel qu'on le laisse faire. Au contraire, on va arrêter les auteurs, ceux qui préparent l'attentat. Et l'actualité très récente a donné des exemples. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut être utilisé ou utilisable comme stratégie pour un État. L'État exerce la violence légitime. Il n'est pas là pour favoriser une violence illégitime.
Bien sûr. Alors, venons-en à la France. On parle des règlements de compte. C'est un phénomène nouveau en France, les règlements de compte, qui est un phénomène extrêmement préoccupant. Tous les Français pensent à Marseille. Hein. Les quartiers nord, Marseille, c'est devenu une icône. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et malheureusement, beaucoup de villes françaises, maintenant, peut-être même, je parle sous votre contrôle, aucune ville française n'est épargnée par ce phénomène extrêmement violent, extrêmement préoccupant. Samuel Huelta.
Alors, il s'agit d'un phénomène qui était effectivement, vous le disiez, il y a quelques années, concentré dans la région marseillaise, un peu sur Lyon, et qui aujourd'hui tend à impacter nombre de grandes villes françaises, dans lesquelles sont présents des groupes criminels, je reviens toujours à la même chose, qui sont occupés au trafic de stupéfiants. C'est des guerres de territoire, c'est des guerres de profit. Nous ne faisons que constater ces éclatements de violence dans des régions qui auparavant n'en connaissaient pas. C'est une réalité criminelle nouvelle, c'est certain. À chaque époque son type de violence. Il y a quelques années, plusieurs dizaines d'années en arrière, en France, avait lieu, par exemple, les attaques de fourgons blindés avec une violence inouïe. On peut observer que ça s'est terminé. Il y a quelques années encore, plusieurs dizaines d'années, les enlèvements à grand son étaient chose assez fréquente en France. Ça s'est terminé. Donc là aussi, à chaque fois que la police judiciaire principalement, hein, puisque celle qui mène les enquêtes de fond a réussi à déjouer et à prendre les bonnes contre-mesures contre ce type de délinquance, mais en accord par exemple pour les fourgons blindés avec le secteur bancaire, avec d'autres secteurs, elle a réussi à tuer non pas les gens, mais à tuer ce type de criminalité. Donc les règlements de compte, c'est une réalité.
Alors,
aujourd'hui.
Qu'est-ce que peut faire la police?
La police peut enquêter, et elle enquête sur ce type de phénomène. Elle peut anticiper pour essayer, avec des méthodes de plus en plus modernes et une appréhension des phénomènes très en amont, elle peut essayer de déjouer. Et si ce n'est pas le cas, de identifier les auteurs de ces violences et de les faire arrêter.
Ce qui est très original dans votre travail, de ce que j'ai lu de l'OFAS, c'est finalement, vous travaillez sur les deux bouts de la chaîne, sur le grand trafic international, les nouvelles routes, les narco-colombiens, et puis etc. Et en même temps, sur le bout, c'est l'infiltration des quartiers, les règlements de compte, les petites bandes. Et là, dans l'OFAS et dans la déclaration d'ailleurs qui a été faite par le gouvernemental pour créer le FAST, en disant il y a un élément nouveau, c'est le renseignement.
Oui, mais je vous dirais que Antoine Garapon est quelque chose qui va vous toucher aussi, c'est que s'il y a un événement nouveau dans le lancement de ce plan contre les stupéfiants de l'automne de l'année dernière, c'est surtout que trois ministres à l'époque, conjointement, la justice, l'intérieur et l'action des comptes publics, enfin le ministère de l'économie et des finances, se mettent d'accord, se mettent autour d'une table, réfléchissent sur le sujet et lancent un plan dans lequel, puisque l'OFAS n'est qu'une des mesures du plan, dans lequel ils décident de créer ensemble une structure inter agence interministérielle qu'il semble la plus appropriée pour lutter contre ces trafics. C'est ça la nouveauté. Alors, enfin la première grande nouveauté. Et ça, c'était jamais arrivé. Jamais arrivé. Les services de qui luttent contre les stupéfiants en France, et je pense à notre prédécesseur, l'Octris, avait en son sein des officiers de liaison de la gendarmerie et des douanes, mais c'était une liaison pour faciliter les contacts avec une autre administration. Là, ce n'est pas le cas. L'OFAST aujourd'hui compte, à l'heure où je vous parle, une vingtaine de gendarmes à son siège à Nanterre, et va recevoir des renforts de la gendarmerie, des douanes, contre un magistrat que je suis, et dans l'avenir, peut-être encore d'autres composantes de la justice qui viendront l'étayer. Ça, c'est la première grande chose, première grande nouveauté. Deuxième grande nouveauté, lorsqu'il s'est agi de structurer ce qu'allait être ce futur service, eh bien, cette réflexion commune, dans le cadre de sa préfiguration du gendarme, du magistrat que j'étais, de la policière qui était la chef actuelle de l'office, Stéphanie Charbonnier, le plus naturellement du monde, l'OFAST a été conçu avec trois pôles, trois secteurs différents, complémentaires. D'une part, un pôle stratégique, qui va faire de l'anticipation stratégique des menaces. D'autre part, un pôle judiciaire, un pôle opérationnel, avec des groupes d'enquête qui vont pouvoir mener des enquêtes sous mandat judiciaire. Et au milieu des deux, je dirais, c'est le bien placé, un pôle renseignement étoffé, réfléchi, qui va pouvoir apporter et anticiper les menaces pour faire en sorte que les groupes judiciaires puissent être le plus efficaces possible.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une nouveauté, Samuel Vuelta-Simon, est-ce qu'il n'y a pas une nouveauté dans le renseignement intérieur, dans le rapport aux citoyens ? C'est-à-dire, est-ce que une des grandes nouveautés, je pense au quartier nord de Marseille, parce que je crois que c'est là que ça a commencé, cette idée que les gens en ont marre, il y a une exaspération sociale dont on a peut-être mis un peu de temps à se rendre compte, mais qui est extrêmement importante. Les gens sont exaspérés, ils sont prêts à entretenir un nouveau rapport avec la police. C'est intéressant parce que c'est contre-intuitif, c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. Ils sont plus prêts à collaborer, à nous donner des renseignements qui pourraient être exploités en temps réel. Et donc, c'est ça l'esprit aussi de travailler au plus proche de la réalité que vivent les citoyens de notre pays.
Oui, mais je dirais que c'est indispensable. Il est, moi qui ai vécu dans d'autres pays à l'occasion, et qui ai voyagé dans quelques autres pays de manière beaucoup plus courte, j'ai toujours été frappé sur la considération fluctuante, changeante, du citoyen français vis-à-vis de la police et de la gendarmerie.
Très ambigu d'ailleurs en plus.
Très ambigu, oui. Très ambigu. Bon, c'est un cliché, mais oui. c'est le policier ou le gendarme qu'on va embrasser en période d'attentat. C'est le policier gendarme qu'on va remercier pour avoir sauvé telle ou telle situation difficile, et c'est le même qu'on va conspuer lors d'une manifestation ou qu'on va conspuer à chaque fois que une action est jugée non conforme à ce qui aurait dû être l'action de la police. Bon, il se trouve que le trafic de stupéfiants, s'il peut réjouir les trafiquants, et j'en doute pas, et ceux qui en vivent, exaspère, comme vous l'avez dit, Antoine Garapon, les gens qui vivent, alors pas forcément dans les cités, qui vivent au quotidien avec la visibilité des trafics. C'est insupportable, je le conçois, et l'État doit faire quelque chose pour lutter, en tout cas pour protéger aussi le citoyen de ce trafic de cages d'escalier ou de rue ou de square.
Je pense aux enseignantes qui avaient fait, aux enseignantes et aux parents d'élèves dans le 93 qui avaient fait un cordon sanitaire autour de l'école en disant ne venez pas pourrir la vie de nos enfants, venez pas vendre votre produit de mort.
Et donc sont nées plusieurs idées pour essayer de remédier à ce sujet. Tout d'abord le fait que effectivement les citoyens sont prêts, je le crois, j'en suis persuadé, à signaler les trafics qu'ils peuvent constater, même de rue, même le trafic de points de deal, aux forces de l'ordre. Le plan stupéfiant prévoit notamment la mise en œuvre d'une solution, téléphonique ou informatique assez facile, comme on le fait pour tout un tas d'autres choses, pour signaler ce spectacle qui n'est plus tolérable et cette présence des trafiquants en bas de la rue, en bas de l'immeuble qui n'est plus tolérable. Et l'important, c'est que derrière ce signalement, il y a un traitement qui soit apporté. Pour ce traitement, il a été aussi décidé dans le cadre de ce plan stupéfiant et l'OFAST, je dirais, s'appuie sur ce socle important de créer dans chaque département une cellule d'échange de renseignements opérationnels sur les stupéfiants, une CROSS, son acronyme. Cette cellule est intégrée par toutes les forces de sécurité localement présentes, la police, la gendarmerie, les douanes, mais aussi, pourquoi pas, les polices municipales, et pourquoi pas les bailleurs.
C'est ça.
Ceux qui sont impactés d'une manière ou d'une autre par le problème stupéfiant, le point de deal, rue...
Il y a une dimension citoyenne qui est nouvelle.
Il y a une dimension de la participation du citoyen à l'action publique dont il faut se réjouir.
Bien sûr.
Je mets en parallèle cette initiative ou cette nouvelle disposition ou prédisposition avec les initiatives de vigilance citoyenne pour lutter contre le cambriolage, enfin d'autres expériences qui ont été développées. Il faut s'en réjouir parce que il n'y a que comme ça, avec, disons le mot, un contrôle social,
bien sûr.
Que l'on pourra se confronter et diminuer ce type de
manifestation. Ce qui est intéressant, c'est finalement cet effet miroir de trafic de drogue, c'est-à-dire que, eh bien, on n'a pas d'autre choix. Les organisations criminelles, les entreprises criminelles sont tellement puissantes et elles s'adaptent tellement vite que c'est à nous aussi de nous adapter. Les trafiquants jouent sur un quadrillage du territoire. Eh bien, il faut reconquérir ce quadrillage du territoire, c'est-à-dire des gens du quartier qui savent bien sûr ce qui se passe, qu'ils le voient tous les jours, qu'ils sont les enfants de leur voisine ou de leur... Et il y a aussi une autre dimension que vous avez mentionnée, je voudrais que vous en disiez un mot, c'est il y avait la présence dans la présence du ministre des Comptes Publics, parce que il y a la prévention, on vient de dire un mot, il y a aussi ce qui se passe après. Ce qui se passe après, c'est ces milliards qui sont déversés en France, qui sont de l'argent illégal, qui demandent à être blanchi. Et là aussi, il y a une action à faire, Samuel Vuelta-Simon.
Il y a une action qui est commencée et qu'il reste à parfaire, à développer. Il est évident que dans la mesure où l'objectif du trafic de drogue, c'est le profit, c'est le profit, uniquement le profit. Une fois que le profit, je dirais, qui peut amener un train de vie confortable aux trafiquants est atteint, ben ils vont aller chercher plus loin. Le plus loin, ça va générer, ça génère des masses financières tellement importantes. Aujourd'hui, un groupe criminel peut prendre des parts dans une société, peut infiltrer l'économie légale.
Et ça arrive en France, ça ?
Alors, c'est ce qui s'est passé à grande échelle en Italie, vous le savez.
Oui, bien sûr.
Puisque les différentes Camorra et autres, ont infiltré l'économie. Ce sont des choses qui peuvent arriver en France. Alors, à ce jour... ce sont des petites entreprises dans divers secteurs
ciblés
que l'on devine bien. Mais rien n'empêche demain que cet argent, une fois blanchi, une fois passé par des canaux qui légitiment un peu l'origine de cet argent-là, puisse rentrer dans le fonds d'une grande société qui peut éventuellement produire des avions, de l'armement, un secteur de l'économie qui est vital, en tout cas qui est très sensible pour l'État. Donc ce problème de l'infiltration économique, c'est une menace, je dirais, supplémentaire à laquelle l'OFAST, l'État en général, mais l'OFAST dans son secteur, veille particulièrement. J'ajouterais aussi que, et on le voit dans d'autres pays, l'argent de la drogue est tellement important.
Parce que 3 milliards 2, c'est quand même...
C'est beaucoup. Ça permet de corrompre, ça permet, pourquoi pas, enfin, il faut se souvenir quand même que Pablo Escobar, avant d'être déchu, a été élu député En Colombie, alors qu'il était trafiquant de drogue. Donc, il y a aussi cette menace qui ne se vérifie pas en France, mais qui sur laquelle il faut garder un œil vigilant, que toute la vie sociale, y compris la vie politique, puisse être polluée, infiltrée par l'argent du crime provenant des stupéfiants.
Mais rassurez-nous, Samuel Vuelta-Simon, ce n'est pas encore le cas pour l'instant en France, à la connaissance de la police.
Ce n'est pas encore le cas pour l'instant en France, absolument, mais voilà, il faut toujours avoir un temps d'avance, à la fois dans les techniques, mais aussi dans les futures évolutions de la menace.
Vous n'avez rien dit de l'accompagnement, parce que vider les quartiers des trafiquants, il faut mettre quelque chose à la place, il faut de la formation, il faut l'école de la bienveillance, hein, c'est une des mesures, c'est-à-dire qu'il faut réinvestir aussi le territoire différemment si on veut que ça marche.
Oui, bien sûr. Alors après, le rôle du policier que je suis est largement dépassé. Il y a des gens dont c'est le métier, qui sont très compétents pour reconstruire du lien social, et faire en sorte que ça marche derrière, comme vous disiez.
Mais ça fait partie quand même aussi du plan de lutte.
C'est nécessaire. J'ai pour souvenir une petite, enfin vraiment, on n'est pas dans un quartier puisque c'est dans ma ville de Bayonne où en plus de l'action des services pour éradiquer des points de deal dans un certain secteur, la mairie de Bayonne a par exemple racheté des immeubles, installé des librairies, des magasins de vêtements pour enfants là où c'était des squats ou des commerces qui attiraient plutôt une clientèle qui était peu recommandable, enfin en tout cas qui était très perturbante pour les voisins. Voilà, donc bien sûr c'est au niveau local un lien à faire avec les pouvoirs publics locaux et les élus locaux au premier rang pour essayer de construire une vie de quartier, de rue, de pâté de maison qui soit assainie. Il faut reconstruire derrière, c'est certain.
Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Alors, Esprit de justice, toujours avec Samuel Vuelta-Simon, qui a choisi de nous faire entendre des chants basques, qui chantaient en basque. Alors, je ne vais pas me risquer à donner le titre ni le groupe, Samuel Vuelta.
Alors, le groupe, c'est un groupe qui s'appelle un jeune groupe de pop-rock, enfin de rock plutôt, de Bilbao, donc basque-espagnol, qui s'appelle UNSA. Et le titre, c'était Aldapangora. Et Aldapangora, ça veut dire... sur la pente vers le haut. Sur la pente vers le haut. Voilà.
Ça, c'est plutôt positif.
Oui, ça raconte l'histoire d'une jeune fille, hein, qui s'interroge sur beaucoup de choses. Mais quoi qu'il arrive, elle est sur la pente et elle gravit cette pente toujours vers le haut. Donc là aussi, c'était une petite référence à notre œuvre commune, voilà, de l'OFAS et des autres pour lutter contre les stupes. C'est une pente qui est ardue, mais on essaie toujours de la gravir et on réussira à la gravir et arriver au sommet.
Eh ben, espérons-le, c'est tout le bien qu'on vous souhaite et qu'on nous souhaite à nous tous. Et mais c'est aussi les Basques. Vous avez une histoire avec les Basques, Samuel Beltasimon, et avec cette, avec l'Espagne en général.
Oui, j'ai une histoire avec l'Espagne, avec les Basques, avec la Galice, l'Espagne, qui est mon pays d'origine, et les Basques. Bon, vous l'avez dit avec la question basque. Et le dernier poste dans lequel j'ai servi comme procureur de la République était à Bayonne.
Et là, les Basques ont rendu les armes. Donc, on en est sorti par le haut de ce terrorisme.
On est sorti de ce terrorisme, en tout cas jusqu'à ce jour, de manière pacifiée. Et pour le grand bien, là encore, des citoyens basques, espagnols et français dans leur ensemble, que ce soit pour les Basques du côté espagnol ou côté français, voilà, la contestation sur laquelle je rentrerai pas est rentrée dans un cadre politique qui est le cadre qui est prévu par nos deux démocraties. Donc oui, c'était une satisfaction, cette évolution finale.
Mais j'imagine, parce que ça montre que le terrorisme a une fin, il faut pas perdre tout espoir, qu'il est possible de trouver une solution pacifiée.
Oui, Antoine Garapon, il y a toujours la possibilité de
à condition. Et vous l'avez combattu le terrorisme.
Alors ça, c'est dans ma première vie de magistrat.
Voilà, oui.
J'ai participé à la lutte conjointe que les services spécialisés, justement de la police judiciaire, aujourd'hui là, ce qui est la DGSI, mais qui à l'époque était la Direction centrale des renseignements généraux, du parquet de Paris. Donc j'ai participé à ce combat mené par l'ensemble de ces acteurs, que ce soit à Madrid comme magistrat, disons, et puis à Paris, à la chancellerie, mais aussi en revenant à la fin, en fin de compte, sur un parquet territorial qui m'a donné l'occasion de voir peut-être récolter les fruits de quelque chose qui avait été semé très en amont.
Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister, Samuel Beltasimon, à une évolution du métier de procureur ou de ses fonctions de sécurité, dans lequel chacun doit rester à sa place, doit jouer son rôle, mais dans le fond, ce que montrent ces trois fléaux terribles que sont la corruption, le terrorisme et le trafic de drogue, c'est qu'il faut repenser les institutions et repenser le rôle de chacun dans les institutions.
C'est certain, et je dirais que peut-être que le meilleur exemple, c'est ce dont on est en train de parler depuis quelques minutes, c'est la présence d'un magistrat, d'un procureur au sein d'un office, enfin d'une agence, pour lutter contre une des menaces les plus importantes à mes yeux, qui est le trafic de stupéfiants. C'est quelque chose qui n'est pas neutre, ça n'est jamais arrivé. Est-ce que ce n'est pas là aussi repenser le rôle du ministère public,
oui,
des procureurs, que d'inclure dans cet organe-là, essentiellement composé de policiers, un magistrat? Je pense que oui. Le procureur français, en tout cas, même s'il a pu être contesté, ou en tout cas son indépendance a pu être contestée un temps,
par la Cour européenne des droits de l'homme.
Exactement. Qui a un peu nuancé son propos dans la suite. Ce sont des belles fonctions que j'ai investi au maximum de ce que je pouvais faire et qui sont au carrefour de toute une série d'intérêts sur nos territoires. Le procureur de la République est l'interlocuteur des élus pour justement l'exemple que je donnais de faire en sorte que les rues, les quartiers, les citoyens puissent vivre tranquillement. C'est aussi le procureur qui est en charge la répression pénale de la délinquance dans son sens large, qui va de l'excès de vitesse jusqu'à l'assassinat, jusqu'au trafic de drogue. Mais c'est aussi le procureur qui aujourd'hui, et je parle pour avoir été pendant plusieurs années membre de la conférence des procureurs, c'est celui vers qui les personnes qui ne savent plus vers qui se tournent, en réalité.
Oui, oui. Et vous l'avez constaté, ça?
Ah oui, oui, absolument. Et en plus, il nous faut essayer, avec nos moyens, de trouver, si ce n'est une réponse ou une action, pour essayer de faire en sorte que les gens qui se tournent vers vous puissent ressortir un peu écoutés.
Mais vous nous montrez à travers ce que vous avez raconté sur le trafic de drogue et du métier de procureur, finalement une certaine noblesse politique, une certaine dignité démocratique du rôle du procureur et des fonctions de sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire au sein de la société française, auquel nous avons peut-être modestement contribué ce soir, pour faire comprendre la nécessité dédramatiser, désidéologiser la question de la sécurité?
Oui, je pense que, Antoine Garapon, vous êtes dans le vrai. Dédramatiser la question de la sécurité. Elle est clivante, cette question de la sécurité. En réalité, par le biais, je reprends le biais du parquet. Moi, j'aimais bien rappeler, en souriant, que je n'étais pas le procureur de la victime, ni celui du citoyen, ni même le procureur de l'État. J'étais le procureur de la République au sens français. Donc, au service de cette République, mais de toutes ses valeurs aussi. Et ça permettait, lorsque très concrètement, ou en tout cas ça m'a permis, lorsque très concrètement se poser la question de oui, est-ce qu'on est pour ou contre l'installation de caméras dans telle ou telle rue, bon, c'est des débats qu'on rencontre sur nos territoires régulièrement, eh bien de donner le point de vue du représentant de la République, de la société, pour dire, ben, voilà, désacralisons cette sécurité, décrispons, décomplexons cette sécurité et faisons en sorte que les moyens qui sont mis en œuvre puissent résoudre des maux sociaux. La délinquance en est un, mais pas au-delà. Donc, le magistrat du parquet, là, à dessein, Antoine Garapon, et puis je sais que je vous parle, je mets le mot de magistrat du parquet, permettait ou m'a permis aussi de faire en sorte d'être le gardien des libertés et du n'allons pas trop loin dans telle ou telle direction.
C'est ça. Et y compris d'ailleurs pour d'autres fléaux sociaux comme les violences conjugales, dont on parle beaucoup en ce moment, et y compris aussi les personnes qui souffrent d'addiction et qui peuvent aussi avoir des problèmes auxquels le procureur peut apporter des réponses.
Certainement, certainement. Après, le petit bémol que j'y vois, hein, enfin que j'y mettrai, c'est que je vous disais, le procureur, c'est celui vers lequel on se tourne quand on s'est tourné vers toute une série d'acteurs et on n'a pas eu de réponse au bout. Enfin, le procureur ou les procureurs font avec les moyens dont ils disposent. Vous savez aussi que même si, et je me réjouis que l'actuel garde des Sceaux ait confirmé l'augmentation une nouvelle fois du budget de la justice, on part de très loin en termes de budget, et l'action sur le terrain, c'est des budgets, c'est du personnel, c'est des collaborateurs, c'est des forces vives. Si la justice est privée, Dieu sait si elle a été privée pendant de très nombreuses années, des décennies de cette manne-là, elle ne peut faire que ce qu'elle peut faire.
Eh bien, merci Samuel Vuelta Simon.
Merci Antoine Garapon pour votre invitation.
Et bonne chance à votre bon courage pour votre mission. Esprit de justice, Samuel Vuelta Simon, Catherine Denet, Manu Couturier, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et la semaine prochaine, je recevrai Amélie Ferret pour parler des assassinats ciblés et des multiples problèmes qu'ils posent. À la semaine prochaine.